Laura Dante. C'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Fantasiosi e più pieni di desiderio di superarsi.
Je suis Marie-Antoinette Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
Et nous travaillons au Centre culturel italien d'Antalighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Laura Dante.
Dans cette émission, nous vous ferons voyager à travers les différents genres littéraires pour découvrir des pépites.
Questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
À chaque fois, nous serons accompagnés par des écrivains et des spécialistes du monde des lettres en Italie.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Una mattina, qualche anno fa, alle 9:15, uscì nell'uliveto davanti a casa mia, a Tellaro, sul Golfo della Spezia. Era di ottobre, una giornata serena e tranquilla. Guardando verso il sole, già alto, a oriente, pensa di colpo, freddamente, che mia moglie avrebbe anche potuto morire di un attacco al cuore. Non ce l'avrebbe fatta a superare la crisi, così pensai tra me. Le ripeto, non avevo mai saputo che fosse malata, né di cuore né d'altro. Le ripeto che non vivevamo insieme da 40 anni. Mi ricordai soltanto, ed era la prima volta che me ne ricordavo dopo tanto tempo, che ad ogni contrarietà improvvisa e violenta i suoi pomelli diventavano paonazzi. Non ce la farebbe, mi dissi. Il giorno dopo ricevetti un telegramma di mia figlia dagli Stati Uniti. Mi comunicava la morte della mamma, per un attacco al cuore, alle 3:45 del giorno prima. Ci sono esattamente 6 ore di differenza tra i fusi orari dall'Italia e dallo stato dell'est dove risiedeva mia moglie. Certo, i due luoghi erano lontanissimi l'uno dall'altro, ma il tempo era quello, al minuto secondo. Ebbene, mi dica adesso, qual è la realtà che esiste al tempo più di qualunque altra realtà? Non seppi rispondere, ma è chiaro, la realtà delle pietre. Le pietre che non cambiano o cambiano soltanto con estrema lentezza e specialmente le pietre preziose che sono incorruttibili. Nous avons lu un extrait de L'Emeralde de Mario Soldati. Questa è Laura Dante, l'émission pour lire et écouter l'Italie. Je suis Marie-Antoinette Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
Et nous sommes aujourd'hui avec Daniele Comberiati, maître de conférence à l'Université Paul Valéry à Montpellier, qui est spécialiste de science-fiction italienne et de littérature d'immigration.
Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation.
Grazie, Daniele. Donc, l'extrait que nous avons lu parle de l'intelligence irrationnelle et du pouvoir des pierres. Ces livres nous transportent dans un autre univers, dans un rêve où il n'y a pas eu la guerre froide. Donc, le monde n'a été pas séparé entre l'influence de l'Est et l'influence du Ouest, des États-Unis, mais il a été séparé entre le Nord et le Sud. Donc il y a la partie du Nord qui est extrêmement militarisée et technologique, et dans laquelle il y a l'influence à la fois américaine et à la fois russe, et le Sud du monde, de la planète, a influence arabe et chinoise, et à la fois arriérée du point de vue technologique, mais très cultivée et très raffinée. Cette expérience littéraire, on pourrait la considérer comme une dystopie ou une uchronie. Qu'est-ce que tu en penses, Daniele?
Et merci pour la question, Marie-Antoinette. Et, alors moi je réfléchis souvent à la question de l'utopie, parce que on dit parfois que il n'y a aucune différence entre utopie et dystopie. La seule différence, c'est la perspective à partir de laquelle on commence à regarder l'utopie ou la dystopie. Il y avait un philosophe italien, Roberto Esposito, qui parlait justement d'utopie et disait pour les Allemands pendant le nazisme, l'utopie était le monde nazi. C'était la parfaite utopie, sauf que pour le reste du monde, c'était une dystopie. Alors c'est intéressant le roman de Mario Soldati, justement, parce que il nous met face à ce dilemme. D'où on regarde la dystopie et l'utopie? Et est-ce qu'il y a une possibilité alternative? Parce que c'est ça aussi, non, qui fait la science-fiction. Imaginer, créer un autre monde.
Oui. Et il y a beaucoup aussi d'exemplaires comme ça dans la littérature italienne, mais comme dans la littérature française, où le rôle de la fantascience, de la science-fiction, c'est de nous faire réfléchir à un autre monde possible. Donc il ne s'agit pas de voyage dans l'espace, il ne s'agit pas des technologies, il s'agit d'imaginer un autre monde éventuellement possible, un monde qu'on essaye peut-être d'éviter. Et donc on voit aussi les côtés politiques et sociaux de la science-fiction.
Alors, dans la tradition italienne, effectivement, la science-fiction a toujours été très politique, très engagée. À gauche comme à droite, hein, parce que pendant les années 70 et 80, il y a eu aussi toute une vague hein, de science-fiction de droite qui a créé vraiment des uchronies où soit le fascisme avait gagné la guerre, soit Mussolini n'était pas rentré en guerre et donc il avait fait comme Franco en Espagne, il était resté neutral et il était resté au pouvoir, soit une autre personne avait repris le pouvoir en Italie pour recréer un nouveau fascisme. Bon, voilà. Plus qu'une uchronie, c'est peut-être une anticipation de ce qui s'est passé en Italie, on pourrait dire maintenant. Mais bon, à part ça, c'est intéressant parce que l'idée des soldati avait déjà été développée en 1938 par un autre écrivain qui était toujours un écrivain réaliste comme soldati, qui s'appelait Corrado Alvaro, un écrivain calabré, qui écrit ce roman, le titre était Paura sul mondo, peur sur le monde, mais le fascisme change de titre et impose le titre L'homme est fort. C'était un monde du futur où il y a une sorte de psychopolicie, c'est-à-dire que les réas sont anticipés par la police. Alors la police peut lire dans les intentions des gens et donc les punir avant que le réa soit commis. Vous imaginez un contexte dystopique réellement. Et c'était très intéressant parce que le roman de Soldati dont tu as lu un extrait nous parle aussi d'un autre élément qui m'a toujours fasciné dans la science-fiction. À quel point nos imaginaires du futur sont influencés par le présent et par le passé. Bah, aujourd'hui, il y a un grand débat, une grande polémique parmi certains écrivains et même chercheurs qui s'occupent de la science-fiction. Ils disent, mais est-ce qu'on a encore assez d'imagination pour imaginer un monde au-delà du capitalisme actuel? Ça venait du réflexion du philosophe Slavoj Žižek, mais aussi d'un philosophe anglais, Mark Fisher, qui disait, souvent dans la science-fiction, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du monde capitaliste.
Et quel est ton avis sur ça? Est-ce qu'il est encore possible d'imaginer un monde alternatif au capitalisme quand on parle de la science-fiction?
Ah, c'est compliqué. Fisher faisait un exemple. Il parlait d'un film de science-fiction de Alfonso Cuarón, Hijos de los Hombres, de Les Enfants de l'Homme en français. C'est une Londres totalement détruite par le terrorisme, par la crise climatique. Et il y a une personne très puissante qui a encore des peintures du passé. Et donc le protagoniste lui demande, mais pourquoi tu fais ça alors que l'humanité est en train de se détruire, de mourir? Tout simplement, je n'y pense pas. Voilà, c'est sa réponse. Je continue, je vais vers l'avant et je n'y pense pas. Souvent, je pense que l'imaginaire est très colonisé par l'actualité et nous avons des difficultés. Mais, par exemple, l'extrait du livre que Marie-Antoinette a lu avant nous donne un exemple. Mario Soldati a une alternative intéressante, à mon avis, même politiquement, de l'époque, c'est la culture gitane. Il y a la communauté gitane qui nous montre une autre modalité de vie. C'est intéressant parce que dans le roman que j'avais cité avant de Corrado Alvaro, Peur sur le monde, l'alternative avait toujours été celle de la vie chez les gitans. Et même un autre écrivain, Lino Aldani, pendant les années 60 et 70, proposera un autre roman où l'alternative, c'est la vie qu'ils font les gitans. Donc une vie communautaire un peu, si vous voulez, hors du capitalisme, même si c'est un peu facile de le dire comme ça, mais dans les idées des écrivains, c'était un peu ça.
Tu parles de « Quando le radici »
Quando le radici, okay. Exactement. « Quand les racines », il a été traduit en français aussi.
Effectivement, les années 60 et 70 en Italie, c'est considéré la meilleure période pour la science-fiction en Italie. À l'époque, et ben, toujours maintenant, il y avait cette collana Uronia di Mondadori, che è la collana, dunque la
collection, oui.
La collection la plus longeve dans l'histoire de la littérature italienne en Italie. Et donc, c'est une collection de livres de science-fiction. Et à l'époque, les livres étaient tellement chers. En tout cas, j'ai lu ça dans une interview de l'actuel directeur Francoforte qui disait qu'à l'époque, dans les années 60 et 70, ils étaient tellement pas chers, les livres de science-fiction, que les gens les achetaient au magasin, ils les lisaient dans les trains et les laissaient. Et que les livres de science-fiction, ils avaient des ventes, ils ont touché 60 000 ventes, alors que d'autres écrivains très réputés de l'époque n'imaginaient pas du tout arriver à ces nombres-là. Donc la science-fiction, un peu comme on le disait tout à l'heure, c'était vraiment un produit populaire, et c'est pour ça aussi que malheureusement n'a été pas autant eu de considération par la critique intellectuelle et universitaire, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission, c'est pour valoriser aussi tous les travaux qui a été fait sur ce genre. Et on sait que par contre maintenant soit la science-fiction revit, c'est particulier le monde de l'éditorie en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, alors ce que tu disais sur Urania, c'est absolument vrai, dans le sens que le nombre de ventes était exceptionnel. Alors, c'est clair que le marché italien en soi n'est pas un marché énorme, le marché de langue italienne. Et c'est vrai aussi qu'on a tendance toujours à promouvoir des écrivains italiens à l'étranger qui ne font pas de la science-fiction, donc plutôt réalistes, etc., etc. Cela dit, actuellement, pour la science-fiction, il y a un marché. Hein. Il y a même, d'accord, t'as cité Urania, qui existe toujours et qui maintenant publie aussi des auteurs italiens, parce qu'au début, elle ne publiait pas des auteurs italiens ou des auteurs italiens avec des pseudonymes anglais, mais personne ne savait qu'ils étaient italiens. Voilà. Maintenant, il publie aussi des auteurs italiens et il y a d'autres maisons d'édition. Hein. Il y a Zona 42, Zona 42, une belle maison d'édition qui publie aussi des italiennes. Il y a Delos, qui est une maison d'édition totalement consacré à la science-fiction. Et il y a d'autres maisons d'édition, voire Einaudi, qui font aussi de la science-fiction. Donc, effectivement, il y a un marché intéressant hein, pour la science-fiction actuellement. Le problème, mais ce problème ne concerne pas que la science-fiction en Italie, c'est que pour un écrivain, gagner sa vie tout simplement avec les droits des ventes de livres, est très difficile, voire impossible, sauf 4 ou 5 personnes qui sont devenues célèbres pour plusieurs raisons, même pour des raisons littéraires, mais pas que, peuvent y arriver, les autres font un travail à côté.
Et pour revenir donc à la réalité d'un futur possible décrite par Mario Soldati, finalement, elle n'est pas si impossible. Donc on le voit aujourd'hui, on a le monde du Nord totalement militarisé entre la Russie et les États-Unis, un Sud qui est réparti entre l'influence du monde arabe et de la Chine, finalement quelque chose qui a été écrit plus qu'il y a 50 ans, ça nous paraît pas si impossible que ça.
Oui, effectivement, ce roman, on peut le lire selon des perspectives différentes. Non? À l'époque, c'était presque une uchronie, c'est-à-dire un moment où l'histoire réelle a dévié et est devenue autre chose. Aujourd'hui, on le lit tout simplement, je dirais, comme un roman d'anticipation. Comme un écrivain qui a eu la sensibilité, la chance, je ne sais pas, l'imagination, de deviner ce qui allait devenir le monde.
Et c'est souvent le cas dans la science-fiction, si je pense à 1980. De Orwell, c'est très actuel. On a cité Anna di Amaniti, qui aussi a parlé de la pandémie bien avant son temps. Donc, je pense qu'aussi, il faut remarquer la valeur de la science-fiction de capter des dynamiques qui sont en train de se passer dans notre société, et souvent, en fait, en les mettant en évidence, elles permettent aussi de nous faire peur, parfois, sur ce qui peut se passer, ce qu'on doit éviter de faire. L'ora Dante, c'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Con l'amore è l'unico sentimento che ci fa battere il cuore.
Je suis Maria Antonietta Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
E noi travailliamo al Centro Culturale Italiano Dante Alighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Allora Dante.
Questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
Tous les livres dont nous avons parlé sont disponibles dans notre bibliothèque au 25 rue Saint-Ursule, car le but de notre association est de promouvoir la langue et la culture italienne sur le territoire de Montpellier. Alors, venez nous rendre visite dans les Coussons.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore.